faut se cultiver pour avoir le changement.
Bienvenue sur les ondes de la radio Tomisa.
Anaona, kijana ona, musika ule napendeza yeye.
Program broadcast on Channel Revelation.
Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Domingo, domingo, katen, katen.
C'est pas du vent. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, cette semaine, vous l'avez sûrement remarqué au fil de notre antenne, nous fêtons la radio, plus précisément le centenaire des premières émissions radiophoniques depuis le site de la Tour Eiffel à Paris, les 40 ans de la libération de la bande FM en France et l'accélération du déploiement de la radio numérique terrestre partout dans le monde. Alors ce n'est pas dans cette émission que nous allons vous faire un cours technique, j'en serais d'ailleurs bien incapable, mais ce dont je suis persuadée, c'est que la radio est un lien puissant. Là, en ce moment, par exemple, je suis à Lyon, dans le sud-est de la France, et vous m'écoutez dans votre voiture, votre cuisine ou dans votre salon de coiffure, en Afrique, au Canada, au Cambodge ou à Paris. RFI résonne dans 150 pays. Et cette intimité, malgré la distance, la magie du son qui stimule l'imagination, la fluidité de la radio, c'est ça la magie de la radio. Tiens, ça me donne envie de chuchoter. Rendez compte, je peux chuchoter dans votre intimité, c'est formidable quand même. Aujourd'hui, les supports de diffusion se multiplient. Les fameux podcasts disponibles sur vos plateformes préférées permettent aux plus connectés de nous écouter quand vous le souhaitez. Mais la radio, c'est aussi un formidable outil pour sensibiliser aux enjeux environnementaux, pour pacifier les liens entre les communautés, surtout les radios de proximité, comme cette émission va le démontrer.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Heureusement, RFI a bien évolué parce que la radio française internationale n'a pas eu que des heures glorieuses. Allez, petit retour en 1942.
Envers et contre tous, la voix de la France restera entendue de nos compatriotes d'au-delà des mers. Les ondes iront porter le message de la patrie aux quatre coins du monde, à Madagascar comme en Syrie, en Nouvelle-Calédonie comme à la Martinique, en Indochine comme en Afrique. L'Indochine, terre fidèle qui est la plus éloignée de nous, la plus isolée et qui nous est demeurée loyale dès le premier jour de l'épreuve, l'Indochine écoute les paroles d'encouragement que la France et le maréchal ne cesseront jamais de lui adresser. Madagascar, terre meurtrie, qui a lutté pied à pied avec ses seules forces contre un ennemi dont l'objectif n'était hélas que trop clair, arracher à notre France cette belle colonie que Gallieni avait su lui donner. La métropole parle aux Malgaches. Elle leur rappelle les bienfaits qu'elle leur a prodigués. Elle leur dit que la France n'oublie pas leur loyauté et leur fidélité. La voix de la France n'est pas morte.
Pas que des heures glorieuses, donc. Bonjour, Max Ball.
Bonjour, bonjour.
J'ai vu que ça vous plaisait bien, cette petite archive. Les auditeurs vous connaissent pour le concours hip-hop que vous avez créé, qui récompense chaque année des jeunes qui tournent des petites vidéos avec leur smartphone sur les enjeux de société. Nous vous recevons chaque année dans C'est pas du vent avec les lauréats. Nous en avons parlé à plusieurs reprises, mais vous êtes aussi le directeur de Planète Radio. Planète Radio, c'est une structure du groupe France Média Monde, comme RFI d'ailleurs, hein, qui accompagne le développement de radios de proximité sur les cinq continents depuis près d'une vingtaine d'années maintenant.
On va même fêter nos 20 ans, je pense, l'année prochaine. Voilà.
Encore une occasion de faire la fête. Alors, c'est quoi pour vous, la radio ?
La radio, c'est quoi ? La radio, c'est le lien. C'est le lien à distance avec les gens qu'on aime ou les gens qu'on a envie d'aider. C'est souvent les mêmes, d'ailleurs. Voilà, c'est ce fil d'Ariane qui relie les gens qui ont envie de, d'être utiles entre eux, d'être solidaires. Il y a un peu de ça. Et puis, c'est aussi un outil qui permet de réduire un peu toute la problématique économique. C'est-à-dire que quand on est dans des zones reculées, on n'a pas les moyens ni d'avoir la télé, ni souvent des smartphones ou Internet. Ben, la radio, ça laisse quand même un lien communautaire, au sens noble du terme. C'est un peu ça, la radio. C'est un climat.
Puis, ça casse l'isolement. Ça a été aussi l'un des objectifs de vos radios de proximité. Ça relie les gens.
Oui, ça casse l'isolement et ça donne la parole surtout à des gens qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser ou alors uniquement en zone privée. C'est-à-dire que quand on fait des projets qui visent à améliorer la qualité de la vie, ce que j'essaye de mettre en place depuis plus de 20 ans, si on a envie d'entendre ce que vivent vraiment les gens et ce qu'ils ont vraiment envie de dire, parce qu'on donne souvent la parole pour des raisons pas systématiquement mauvaise, hein, mais pour des raisons logistiques, souvent on donne la parole toujours aux mêmes personnes. Donc voilà, et le fait de donner la parole à des gens qui sont dans une zone extrêmement reculée ou qui s'expriment pas dans des langues très connues ou reconnues dans le monde des médias, bah, la petite radio communautaire, elle peut, quand elle est en lien, quand elle est fédérée avec d'autres radios communautaires aussi, bah, permettre de faire remonter des avis, des engagements, des positions. Voilà, et c'est un peu ce fil d'Ariane-là qui m'intéresse, moi, dans la radio.
Et alors, comment est-ce que vous les accompagnez avec Planète Radio ?
On les accompagne un peu comme on accompagnera un ami, c'est-à-dire ça peut être des soutiens techniques, en matériel, ou alors pédagogiques, en formation. Souvent aussi, c'est pour les aider à rentrer dans des réseaux pour des financements. Ils savent pas trop comment s'y prendre, ils n'ont pas l'habitude. Voilà, nous, on travaille quasi exclusivement avec des radios de proximité, ce qu'on appelle des radios de brousse. Donc, c'est des radios qui sont gérées à 90% par des bénévoles qui n'ont pas d'expérience dans le domaine du développement d'entreprises, entre parenthèses, parce que c'est rarement des entreprises au sens financier du terme. Mais voilà, donc on leur donne des conseils et quand on a les moyens, ben on va chez eux, on partage leur vie, leurs préoccupations, on essaie de trouver des solutions. Et on utilise beaucoup de matériel réformé. Voilà, c'est-à-dire au lieu de le jeter, moi ça fait plus de 15 ans maintenant que je récupère du matériel de radio chez Radio France et chez RFI et chez des particuliers pour aller monter des radios à l'autre bout du monde pour leur donner la possibilité de pouvoir avoir des technologies un peu durables, même si elles ne sont pas nouvelles, mais au moins durables.
Alors, vous avez beaucoup d'ambassadeurs de Planète Radio dans le monde et parmi ces ambassadeurs, il y a vous, Bob Yala, bonjour.
Bonjour Anne-Cécile Brach.
Vous êtes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Vous travaillez depuis une dizaine d'années avec Planète Radio pour installer justement des radios de proximité dans différents endroits de cet immense pays. Vous avez en parallèle créé en 2014 une association avec laquelle vous sensibilisez les jeunes de 14 ans à 24 ans au rôle des médias et aux enjeux environnementaux. On va en parler dans un instant. Mais en quelques mots, tout d'abord, ça représente quoi pour vous la radio ?
La radio, pour moi, c'est toute une vie, quoi. C'est l'année prochaine que j'ai fait mes 40 ans. Mais je peux vous dire que j'ai fait la radio la moitié tombée dans la marmite très jeune. Et grâce à la radio, j'ai pu non seulement parcourir les Congos entiers, partager mon expérience, apporter un appui à des projets radio avec Max et Planète Radio. Mais c'est vrai aussi que la radio, je peux vous dire, c'est toute ma vie, toute ma carrière professionnelle. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique, les Congos, autant de pays, même en ces moments de transition numérique, ne peut pas faire sans la radio.
Pourquoi ?
Simplement parce qu'aujourd'hui, c'est un luxe de pouvoir parler des WhatsApp, parler des Facebook. Nous, on a un projet dans la province de l'Équateur, à Mbandaka. L'idée était de pouvoir aussi, à cause des restrictions liées à la COVID, permettre aux jeunes de pouvoir échanger avec nous les réseaux sociaux. On s'est rendu compte simplement que c'est impossible. Pourquoi ? Parce que la plupart des personnes là-bas, ils ont des téléphones, mais ce n'est pas des smartphones. C'est vraiment des téléphones basiques avec touche et Facebook, WhatsApp, c'est des choses qui est encore du domaine des rêves pour eux. Entre-temps, ils ont la radio et la radio constitue pour eux le meilleur ami. Ils dorment, ils se réveillent et vivent avec la radio.
Donc la radio reste quand même un média important en RDC. Alors combien de radios de proximité avez-vous installé avec Planète Radio aujourd'hui ?
Des dizaines. Je ne sais pas vous dire le chiffre précis. C'est dans tous les Congos qu'on a eu à un moment ou un autre un projet radio. On a été pour pouvoir former des jeunes, mais aussi des moins jeunes, des acteurs des radios qui avaient déjà des années de pratique, mais qui voulaient encore renforcer leurs capacités. Et ces 10 dernières années sont plutôt remplies en activité. Et ça, c'est partout dans les Congos, mais pas simplement dans les Congos, parce que à travers ces activités, les activités des Planètes Radio, nous avons aussi eu à partager des expériences dans des pays comme les Cameroun, les Burkina Faso et ailleurs, quoi.
Vous êtes connecté avec d'autres personnes qui ont, comme vous, la radio chevillée au corps.
Eh oui, c'est une grande communauté une grande famille avec autant de membres et tous nous vivons, nous respirons radio.
Alors, vous avez à chaque fois créé des émissions environnementales, hein, partout où vous avez installé des radios de proximité. Je vous propose d'en écouter un exemple avec ce reportage diffusé sur la radio Mingogo Yakongo qui traite de la problématique de l'accès à l'eau et à l'énergie.
Dans ce magazine, nous voyagerons au travers de ces vastes pays, la RDC, pour découvrir les réalités de l'accessibilité à l'eau et à l'énergie électrique, des réalités auxquelles font face les populations locales. Comment les populations locales s'organisent-elles face à ces défis? Quelle est l'incidence sur la vie sociale et économique des populations, etc. Notre tournée commence en Mbacana, dans la périphérie de Kinshasa. Il nous revient que l'écosystème de cette contrée est totalement menacé à cause de la déforestation. Pour la fabrique des braises, comme vous le savez, sont un palliatif pour beaucoup de Congolais face à l'inaccessibilité à l'énergie électrique pour faire la cuisine. Une autre conséquence de ce phénomène est que le cours d'eau tarisse et cela crée une insuffisance des quantités recueillies dans les citernes d'eau pour traitement avant distribution dans la localité. Et comme vous pouvez l'imaginer, des maladies d'origine hydrique s'invitent également au rendez-vous, nous disent certains habitants au micro de la radio Mungu.
Chômage, bato musale zate na Kinshasa, bato bakomi kozonga vers les banlieues, pour ba lukaba misala.
Bob Yala, il y a quelque chose qui m'a amusé en entendant ce reportage. Tout d'abord, j'ai trouvé que le présentateur avait un petit ton à la Alain Foucault. C'est une vision RFI de la chose ou pas?
Non, mais pour tout vous dire, RFI, ça reste la grande école des radios, quoi. Surtout avec les radios de proximité, je vous avoue que vous avez des gens qui sont restés faire depuis des années de la radio, mais qui n'ont pas toujours eu la possibilité de pouvoir faire des écoles de journalisme. Et c'est à travers des médias comme RFI qu'ils ont la possibilité chaque fois de pouvoir se former. Et donc, visiblement, oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup écouté Alain Foucault.
Ça ressemble un petit peu dans le ton, en tout cas. Alors, est-ce que les auditeurs de ces radios de proximité s'intéressent vraiment à cette problématique environnementale? C'est vous qui avez cette volonté ou il y a une demande?
Faut dire que l'environnement, c'est une question sur laquelle très peu de populations, au départ, prennent le temps de pouvoir s'intéresser, simplement parce que quand vous vivez dans l'arrière-pays, en République démocratique du Congo, vous avez au quotidien autant de problèmes face à vous que d'abord et avant tout, c'est la survie. Si vous voulez, toutes les questions environnement, c'est un peu un luxe. Et donc, d'eux-mêmes, c'est des questions auxquelles ils ne s'intéresseraient peut-être jamais. Mais à travers la radio et des méthodologies bien adaptées. On essaye, et je pense que l'expérience est plutôt réussie, à chaque fois de pouvoir, à travers des éléments de la vie quotidienne, à leur montrer qu'on ne peut pas aujourd'hui faire sans l'environnement, quoi. Les gars qui font des braises chaque fois dans la forêt, et tout, c'est vrai que c'est assez difficile de pouvoir lui dire écoute, les déboisements est en train de pouvoir causer beaucoup de problèmes à la planète parce que justement on n'avait pas d'autre alternative à pouvoir lui proposer. Mais en lui montrant les conséquences et les alternatives à ça, oui, on arrive bien certainement à pouvoir déjà dans un premier temps créer les débats, quoi. Leur permettre de pouvoir réfléchir sur la question. On pense pour nous que les simples faits de pouvoir ramener dans des discussions de la vie commune des questions liées à l'environnement, c'est aujourd'hui une grande victoire. Et progressivement, on pense que l'environnement devient une préoccupation, même pour les populations rurales ici en RDC.
Et puis surtout, vous proposez des alternatives et c'est ça qui est important à faire connaître plutôt que d'accabler les citoyens sur les actes de la vie quotidienne. Comme vous le dites, beaucoup n'ont pas le choix. Et en parallèle de ces activités avec Planète Radio, vous avez créé une association pour les jeunes, hein, pour les jeunes de 14 à 24 ans, pour les sensibiliser aux médias et à l'environnement. Là, je vous propose par exemple d'écouter l'extrait d'une émission que vous avez aidé à réaliser, qui est produite par les élèves du centre d'enseignement Les Gazelles à Kinshasa. Le titre de cette émission, c'est « La rivière Kalamu est-elle devenue une poubelle ?»
Bonjour chers auditeurs et bienvenue à cette nouvelle émission que vous écouterez désormais sur les antennes de votre radio. Nous viendrons régulièrement vous parler des questions liées à l'environnement, le réchauffement climatique, la salubrité et l'utilisation responsable des ressources naturelles. Au menu de cette première émission, la rivière Kalamu. Cette rivière qui traverse plusieurs communes de la ville de Kinshasa est devenue une poubelle. Nous nous intéressons à cette question aujourd'hui dans notre émission. Pour commencer, je vous laisse écouter cet élément.
Ça sent mauvais.
Nine.
Eh.
Nine.
Ça sent mauvais. Tu sens pas l'odeur d'une poubelle, un truc dans le genre.
Ah, poubelle peut-être née au fond qui boit. Mais on a mouru une nazo que l'eau coûte.
Va d'abord voir. Tu verras, j'étais ça où.
Mais dans la rivière, parce que c'est même pas l'eau de la maison.
Mais pourquoi?
Et puis après, ils vous ont mon habilité pour nous faire ça me tapouche.
Mais pourquoi? Tu ne sais pas que ça pollue la terre?
Non, mais bon, ça, bon, ça y avait ça mon là.
Tu ne sais pas que l'eau qui vient de la rivière, là, l'eau que tu bois là du robinet, ça vient de la rivière.
Et bon, la somme, maman, elle m'y fait pour aller.
Et madame, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous polluez la rivière quand même.
Nous sommes pas canines, nous sommes monatés.
Mais pourquoi vous faites ça? Ça détruit l'environnement, vous ne le savez pas.
Nous sommes des personnes à l'ABC en haut.
Mais vous savez que même si vous n'êtes pas la première personne, quand vous faites ça, ça crée des inondations. Ça va risquer d'entrer même chez vous, ce n'est pas bien. Même si ce n'est pas moi qui vais arranger, mais quand on est à plusieurs, ce sera mieux. Il faut mieux faire ça à plusieurs pour aider notre pays à s'améliorer.
Protégeons nos rivières pour qu'elles ne deviennent pas des poubelles.
Bon, bien là, il y a beaucoup de travail derrière ce reportage, hein, beaucoup de créativité aussi.
Ouais, simplement que avec les jeunes, il faut forcément leur donner la possibilité de pouvoir réinventer la radio à leur sauce. Ça, c'est l'un des projets qu'on fait depuis 2014 avec des jeunes. C'est vrai que l'étou est parti d'une discussion avec Max qui m'a carrément soufflé l'idée de pouvoir monter au niveau local une structure. Et l'idée, c'était dans ces pays où la radio, les médias en général, ne sont plus que des caisses de résonance. En parlant journalisme, en parlant radio, vous parcourez les pays et vous rencontrez des acteurs des radios qui sont derrière des hommes politiques, derrière les conférences des presses, juste pour pouvoir relayer un discours et tout. Et pour nous, il est évident que dans un pays avec autant de problèmes que les nôtres, la radio a un grand rôle à pouvoir jouer. Donc, l'idée derrière secteur média, c'est déjà permettre à la radio de pouvoir pleinement jouer ses rôles de vecteur de développement. Nous avons des projets dans 5 sites actuellement à travers la RDC où des jeunes sont initiés au travail de la radio. À Kinshasa, c'est des jeunes de la rue, des Chégué, à qui on apprend les bases de la radio et qui font des émissions pour pouvoir parler de leur quotidien. Et en même temps, ils ont la possibilité de s'attaquer à des thématiques comme le changement climatique. C'est aussi la même chose dans les autres sites comme en Équateur où c'est pouvoir mettre ensemble des pygmées et des bantous ou carrément dans les Bas-Congo où la question de la délocalisation de toute une communauté de plus de 40 000 âmes à cause de l'action du barrage d'Inga et la thématique centrale.
Merci beaucoup, Bob Yala, d'être intervenu dans C'est pas du vent. Est-ce qu'on peut vous soutenir? Comment est-ce qu'on peut vous aider à continuer à travailler comme ça avec les jeunes et à sensibiliser à l'environnement?
Je pense qu'il est important pour nous de pouvoir continuer cette marche. C'est vrai qu'actuellement, avec la crise de la COVID, ce n'est pas toujours évident de pouvoir trouver les moyens pour pouvoir aller dans les pays et tout. C'est tous les combats qu'on mène actuellement avec Children's Radio Foundation, notre structure partenaire dans ces combats-là. Et donc, l'idée est de pouvoir arriver à convaincre, malgré les focus COVID, de partenaires, de bailleurs qui trouvent l'importance à la chose, à pouvoir nous accompagner pour pouvoir continuer à sensibiliser. La radio, c'est vital, les changements climatiques, l'environnement, c'est vital et on aimerait bien pouvoir continuer demain et pourquoi pas pouvoir avoir d'autres personnes, d'autres structures qui viennent, car les chantiers sont tellement grands que l'apport de tout le monde est important.
Eh bien, en tout cas, ce sera relayé dans C'est pas du vent. Merci beaucoup.
Merci, Anne-Cécile Bras.
Max Ball, je rappelle que vous êtes le directeur du service Planète Radio. Alors, comment est-ce que vous réagissez à ces propos de Bob Biala? On a entendu beaucoup de choses, j'ai vu que vous étiez très attentif.
Ben, je réagis en bien. Déjà, c'est bizarre parce que je me reconnais. C'est ce que j'aurais pu dire il y a 30 ans. Non, mais voilà, je connais Bob Biala depuis très très longtemps parce que c'est une des premières radios que j'ai montées au Congo, dans son village de Bankana. Donc non, tout ce qu'il dit, ben, ça fait sens. Et pour moi, c'est une accumulation d'évidence maintenant. C'est parce que je suis souvent sur le terrain et que je vis leur quotidien. Mais c'est vrai que l'intérêt de la radio, ce qui n'a pas été très, très notifié, ça me paraît important, c'est que le fait, c'est aussi qu'il n'y ait pas d'image et que, ben, que ça balaye, ça essuie, ça nettoie un petit peu toutes les barrières économiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens de montrer qu'on fait de la télé ou de s'habiller comme on fait de la télé. Ben, en radio, on peut y aller en short, quoi. Et si je ne vous étonnerai pas en disant que dans les locaux d'FMM, on voit très vite ceux qui font de la radio, ceux qui font de la télé. C'est, voilà, c'est comme ça. C'est une pure réalité, quoi. Donc, on peut faire de la radio avec des moyens limités, même vestimentaires, ce qui n'est pas le cas pour la télé. Donc, voilà.
C'est un média démocratique.
Oui, puis c'est un média qui permet de faire d'autres choses en même temps. C'est un média qui permet souvent de lancer des débats houleux, intéressants, actifs, vivants. Voilà, la radio sous l'arbre à palabre en Afrique, pour en avoir vécu de nombreuses soirées comme ça, bah, c'est tout un événement. Quand Bob parlait d'RFI comme une radio de référence, c'est plus qu'une radio de référence. C'est-à-dire, c'est un moment de vie, quoi. Il y a un moment, en fin de journée, vers 18-19, là, on s'assoit en bas du manguier, là, et on écoute les news locales, nationales ou internationales, même des pays dans lesquels on ne mettra jamais les pieds. Mais on a un avis, on regarde pas, on regarde en l'air, on se regarde entre nous. C'est ça, l'intérêt de la radio, c'est que c'est accueillant. C'est peut-être l'adjectif qui irait le mieux à la radio, c'est accueillant, c'est welcome, la radio.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Nous fêtons la radio aujourd'hui dans cette émission. Une fête qui s'est déroulée toute la semaine sur notre antenne pour commémorer le centenaire des premières émissions radiophoniques depuis le site de la Tour Eiffel à Paris. Alors la radio, c'est un média qui peut être mondial et local. Il peut attiser les guerres ou pacifier les conflits. Pour bien comprendre cette dimension, je vous propose de nous rendre dans le sud-ouest de la République centrafricaine, dans la préfecture de Sangambaéré à Bayanga. Écoutez ce reportage que Guillaume Thibault avait tourné là-bas en 2011 pour C'est pas du vent.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI à Bayanga.
Tonton Robert, où est-ce qu'on est ici?
On est à l'usine, l'ex-usine, l'ex-bébé. Tout est brûlé, tout est brûlé. Regarde devant nous, tout est brûlé. Donc, j'ai travaillé ici pendant 20 ans. On voit des carcasses de maisons. Un grand hangar parce qu'il y avait des usines de plaquage, l'usine de scierie, ça a pris feu. C'est malheureux. C'est malheureux pour regarder d'abord des choses comme ça. Tout est gâté, tout est gâté, tout est pris feu, il n'y a rien.
Combien on gagnait quand on travaillait ici?
Ouais, ça dépend. D'abord, les ouvriers gagnaient 60, 70 000, 80 000. D'autres à 120 000, 200 000. Et les manœuvres à 25 000. Il y avait beaucoup de gens, plus de 800 personnes qui travaillaient d'ici.
Et il y avait beaucoup d'argent?
Beaucoup d'argent qui tombait d'abord chaque fin du mois à la ville de Bayanga. Maintenant, il n'y a plus rien. La mairie souffre beaucoup. Ça fait même 4 ans, 5 ans même, il n'y a pas d'argent.
En 2004, c'est interdit de couper le bois autour de Bayanga, donc l'usine ferme.
Oui, c'est interdit de couper le bois, l'usine ferme. Et ça a resté comme ça, et envahi par des herbes, et ça a pris feu.
Voilà, au milieu des ruines de l'usine, il y a quelques femmes qui ramassent des petites choses. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là?
Nous sommes venus chercher des écrous.
Des pointes, les petits
oui,
clous
des pointes, oui. Nous voulons aller construire avec une autre maison, une autre petite hutte.
D'après vous, pourquoi cette usine a fermé? À cause de quoi?
Bon, cette usine a été fermée, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'arriérés du salaire. Ça ne nous arrange pas, parce qu'ici à Bayanga, la plupart des populations vivaient à cause de cette société. Les animaux sont plus protégés que les personnes ici à Bayanga. Ça me rend triste, parce qu'une ville a besoin des populations et non des animaux.
Ou peut-être de trouver le juste milieu entre les hommes et les animaux?
Oui. Il faut qu'il y ait une entente entre la population et ceux du projet.
Le projet, c'est les gens de WF notamment qui gèrent la réserve?
Oui, ce sont eux. Donc c'est trop difficile pour nous ici.
Pourquoi cette usine est fermée?
Vous savez bien que le problème de la forêt, c'est un problème de haut niveau. Ils ont parlé de changement de climat, de tout ça là. Donc on peut arrêter d'abord l'usine à cause de ça, pour avoir de l'air aussi. Il y a les carbones, il y a les quoi, tout ça.
Tout l'aspect environnemental est passé devant l'homme?
L'homme, c'est ça, pour avoir de bonnes respirations. En Europe, même en Afrique aussi. On a besoin d'abord de l'air aussi.
Mais en attendant, la population de Bayanga, elle souffre.
Oui, elle souffre. Mais dans la nature, vous savez bien que s'il n'y a rien, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de quoi, la personne doit souffrir. C'est toujours c'est comme ça, dans la vie.
Avec la pression maintenant, je ne suis pas optimiste, mais c'est difficile de savoir ce qu'il y aura dans les années qui arrivent. Hein. Je m'appelle Andrea Turcalo. Je suis un chercheur pour un ONG américain, Wildlife Conservation Society. Et je viens de faire 20 ans ici sur une étude des éléphants de forêt à Zangabay, qui se situe à Bayanga, en République centrafricaine. Chaque année, je vois la destruction. Maintenant, il y en a beaucoup d'exploitation de bois. À l'est, il y a 10 ans, il n'y avait rien là-bas. Donc, il y avait une superficie énorme pour les éléphants. Et maintenant, il y a une compression. Et les gens, on a une tendance de blâmer les éléphants pour tous les problèmes. Mais le problème, ce n'est pas les éléphants, c'est les êtres humains et nos activités.
Bonjour Didier Yetenji.
Bonjour Cécile.
Vous êtes le directeur de Radio Njoku, qui est une radio locale basée à Bayanga, qui donne justement la parole aux populations locales, notamment aux Pygmées. C'est une radio qui a été construite par RFI Planète Radio. Le reportage que l'on a diffusé date d'il y a une dizaine d'années. Depuis, la situation s'est largement améliorée. Elle s'est pacifiée entre les défenseurs de l'environnement, le WWF et les populations locales, notamment les Pygmées. Et ça, c'est en grande partie grâce à la radio, Didier Yetenji.
Effectivement, Bayanga, dans la commune de Yobe-Sanga, avait des problèmes sur la question de conservation auparavant. Mais après avoir implanté la radio et la non-existence de la société d'exploitation de bois qui donnait un peu la vie à la communauté, Et il était question de conserver un peu notre biodiversité, c'est-à-dire la forêt, voilà, etc. Et il existait des gens dont on trouvait les riverains et les Bayaka, qui sont le peuple autochtone ici, ça s'appelle les pygmées. Et donc, du coup, l'arrivée de la radio a fait une nette séparation, a ramené les gens à avoir leurs droits, a ramené les gens à avoir l'accès aux soins de santé, a amené les gens à avoir de l'équilibre sur le bien-être. Et donc, du coup, depuis l'implantation de la radio jusqu'à aujourd'hui, la communauté se retrouve, quoi.
Et alors, comment est-ce que vous avez utilisé la radio pour faire ça? Qu'est-ce que vous avez mis en place comme type d'émission?
Et donc, comme le nom, comme c'était renommé, radio communautaire. Donc, toute population, toute communauté a droit à accès à parler à la radio. Et comme s'ils n'ont pas l'occasion de remonter leur voix, la radio est leur voix. Donc, on descend dans la communauté, on recueille le propos de communauté, on les invite à la radio pour des émissions. Ils écoutent leur propre voix. Et c'est comme ça que nous travaillons.
Et vous avez aussi facilité, vous le faites d'ailleurs tous les mois, la discussion entre les Baaka et les responsables du WWF, qui donc est une association internationale de protection de la biodiversité qui est implantée sur place. Et ça se passe notamment à travers cette chronique mensuelle. On en écoute un extrait.
Bon, message Sumbi doit y tenir à Keti Soniso. Déjà, il y a population Tibayanga. Faudrait pas qu'il continue Tiba Mosortia Tibakuti Bayanga So, Tongana Yeti Benizop. So, Aki Yeti, c'est vrai.
Didier Yetenji, donc à l'origine, il y avait un conflit, et maintenant, grâce à la radio, les personnes discutent, échangent, et le message est largement diffusé.
Oui, donc je vous rappelle que l'arrivée de l'organisation WWF s'était fixée sur la conservation de la biodiversité. Entre-temps, la communauté de Bayanga vivait l'accès libre à tout ce qui est le potentiel de la forêt. Et donc, du coup, WWF est arrivé et a essayé de mettre certaines normes pour pouvoir conserver ou alors faire des gestions durables. Et tout d'un coup, la population n'a pas cet intérêt, n'a pas vu cet intérêt, s'oppose un peu, se sentit comme délaissé, comme étant un peu de pression. Et la radio aujourd'hui a joué ce pont pour pouvoir promouvoir les règles de la protection, promouvoir les questions de droit et promouvoir l'accès à travers les textes que le pays a essayé de mettre en place. Aujourd'hui, il y a une nette collaboration entre la population et l'organisation WWF ou encore les aires protégées de Zangasanga, renommé le site.
Vous savez qu'on fête les 100 ans de la radio sur RFI cette semaine parce que ça fait 100 ans qu'il y a eu les premières émissions de radio qui ont été émises depuis la Tour Eiffel vers la France. Comment est-ce que vous voyez la radio, vous, à Bayanga, dans le sud-ouest de la République centrafricaine? Qu'est-ce que ça représente, cet outil, pour vous?
Comme vous l'avez dit au départ de notre interview, la radio, c'est un outil qui remplace la voix de sans voix. La présence de la radio à Bayanga aujourd'hui, c'est un plus pour la population de Bayanga. La présence de la radio aujourd'hui, il suffit que nous avons... Je vous donne un exemple que la radio avait subi ses pannes techniques. Nous n'avons pas émis pendant quelques jours, mais c'était la communauté à part entière qui se retrouve à l'époque jadis, c'est-à-dire il se retrouve dans le trou. Et on avait des visites, même à la maison, chez moi, à la nuit, les gens viennent cogner. Quand est-ce la radio va reprendre le directeur? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et tout d'un coup, quand on s'est mis à réparer le pylône là, c'est toute la communauté, y compris les Bayaka, qui auparavant ne s'associent pas avec la communauté, viennent porter de main forte que dit « Ah, mais la radio nous a beaucoup aidé, vraiment on ne peut pas laisser ». Vous voyez cette importance qu'ils ont accordée à la radio. Donc on se dit aujourd'hui que la radio est à la une de la vie de communautés à part entière, soit en Europe, en Afrique, pourquoi pas à Bayanga.
Très bien, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage, Didier Yetenji, et longue vie à Radio Njoku.
Merci Cécile, c'est moi qui vous remercie pour cette promotion de la Radio Njoku et de la population de Bayanga.
Max Ball, vous connaissez bien Didier Yetenji en tant que directeur de Planète Radio. Vous avez évidemment travaillé avec lui pour créer cette radio Njoku. C'est une radio qui vous est particulièrement chère.
Ben oui, parce que contextuellement, elle est originale. Elle est déjà installée en zone extrêmement reculée, dans des zones qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter, si ce n'est pour faire de la protection environnementale de terrain. Puis c'était la première fois qu'on faisait une radio avec des populations indigènes à l'antenne. Je crois qu'on rentrait d'Amazonie, en fait. On avait fini une radio au Venezuela, à la frontière colombienne, et c'était la première radio qui acceptait des populations Baaka. Baaka, c'est la tribu des pygmées locaux. Et ça, c'est toute une histoire, parce qu'il y a un gars qui s'appelait Louis Sarnaud, qui est un copain de Jim Jarmusch, le cinéaste américain, qui est arrivé sur le terrain un peu avant Andrea, qu'on a entendu dans le reportage, et qui lui aussi travaillait sur l'enregistrement des sons pygmées, donc il venait de New York, et qui est venu pour une semaine, et il est resté 30 ans. Et voilà, c'est avec lui que j'ai monté la première émission de sauvegarde de musique Baaka, de musique pygmée à l'antenne. Et on faisait une émission, c'est extraordinaire, je me rappelle toute ma vie, donc les premières émissions pygmées, avec de la musique pygmée et un musicologue. Voilà, donc cette radio, je la suis, je l'aime. Ils vivent très difficilement parce que la situation là est très reculée. Et encore une fois, il a bien exprimé le contexte, c'est-à-dire ils sont pris en étau entre la volonté de faire de la préservation environnementale haut de gamme à travers le WWF et ses partenaires et ses financiers, et à la fois de continuer à vivre comme ils le faisaient avant. Les pygmées tuaient en gros un éléphant par mois pour manger avant, et ça nourrissait toute la population des Baaka. Et moi, quand je vois les mamans pygmées que je vais voir quand je vais sur le terrain, et elles me disent, tu sais Max, on peut plus manger l'éléphant là maintenant, moi mon mari il est allé en prison parce qu'il voulait tuer un éléphant, donc ils peuvent plus manger d'éléphant. Comme dit Andrea, c'est ni la faute des éléphants ni la faute des pygmées. Donc l'idée, c'est pas un éléphant par mois qui crée le problème. Donc voilà, c'est toute donc cette radio, elle a un sens politique, elle a un sens humain, elle regroupe toutes les raisons pour lesquelles j'aime faire de la radio. Il y a une histoire humaine, il y a une histoire multicontinentale. On se retrouve à New York, à Paris, à Bayanga, et tout ça dans le même objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie des gens. Et c'est vrai que ce sont des belles histoires et des histoires qui durent, hein, parce que ça fait très longtemps quand même qu'on va là-bas.
Voilà, et c'est peut-être pas un hasard si on vous invite souvent dans C'est pas du vent, c'est peut-être parce qu'on partage un petit peu la même vision de la radio. Merci Max Ball d'être venu.
Merci
dans
beaucoup
Anne-Cécile. Et bravo pour Planète Radio.
Écrire c'estpasduvent@rfi.fr.
La radio, c'est aussi un outil utilisé par de nombreuses associations environnementales pour sensibiliser justement aux enjeux environnementaux et protéger la biodiversité. Bonjour Chani.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien, merci. Et vous?
Ben ça va, merci. On fait la radio, alors on est content. En fait, je vous demande si vous allez bien parce qu'on vous suit régulièrement avec C'est pas du vent. Les auditeurs vous connaissent. Vous avez fondé Kalawet à Bornéo, puis à Sumatra, une association pour protéger au départ les gibbons, donc des singes qui vivent dans ces forêts, les protéger de la déforestation et aussi du braconnage. Votre action s'est depuis étalée bien au-delà, vous allez pouvoir nous en parler. Et vous avez décidé depuis 2003 de miser aussi sur la radio. Alors pourquoi la radio ?
La radio, parce que pour moi, à un moment donné, quand j'ai monté Kalawet, mon but c'était de sensibiliser les jeunes générations, ceux qui peut-être en ville ont envie d'acheter un gibbon comme jouet vivant ou comme animal de compagnie. Donc essayer de leur faire comprendre que fallait pas faire ça, quoi, en gros. Et moi, je me suis mis dans la peau de ces ados. Et moi, quand j'étais gamin et ado, j'écoutais la radio, j'aimais écouter de la musique, écouter des émissions. Et donc, du coup, je me suis dit, on va peut-être créer une radio pour les intéresser, pour avoir des auditeurs et, quelle que soit l'émission, l'heure de diffusion, diffuser des messages justement sur l'environnement. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'intéressait et ce qui m'intéresse toujours, c'est de toucher des auditeurs qui, a priori, se fichent un peu de la nature et des animaux, qui viennent à notre rencontre parce que nos programmes les attirent, encore une fois, avec des émissions rigolotes, de la musique, mais... Encore une fois, ils vont devoir écouter ces petits messages sur l'environnement au sein de ces émissions. Donc, toucher des auditeurs qui, a priori, ne seraient pas venus sur une émission qui parle de la nature, par exemple.
Alors, c'est une radio qui émet quand même 24 heures sur 24. Alors, quel type de message vous diffusez ?
Alors, les messages, ça peut être un message global sur le réchauffement climatique, le lien entre la forêt qui est brûlée derrière chez eux et la disparition des ours polaires, en gros. Mais ça peut être aussi un message beaucoup plus concret avec la diffusion de notre hotline, un numéro de téléphone, s'ils sont témoins d'un animal en difficulté, un animal qui se trouve perdu dans la ville ou des choses comme ça. Donc, la plupart des sauvetages effectués à Bornéo aujourd'hui le sont grâce aux appels des auditeurs.
Donc, ils vous appellent pour vous dire quoi, par exemple ?
Certains nous disent « j'ai un gibbon chez moi et j'ai compris que ce n'était pas bien d'avoir un gibbon comme animal de compagnie, c'est un animal sauvage ». Donc, ils nous amènent l'animal. C'est des auditeurs qui nous appellent pour nous dire qu'ils ont vu, notamment à la période des incendies, par exemple, des singes un peu déboussolés qui rentrent dans les villages et sur les toitures, etc. Donc, on va les récupérer pour les lâcher dans d'autres zones. Ça peut être aussi quelqu'un qui dénonce son voisin en disant « oh, je connais mon voisin là-bas, il a un gibbon ». Détenu chez lui, donc ça nous permet de collecter quand même pas mal d'informations. C'est devenu un vrai outil parce qu'encore une fois, c'est pas un illuminé de français avec son équipe qui essaie de travailler à Bornéo, c'est aujourd'hui des milliers d'auditeurs qui sont avec nous et qui nous donnent des infos.
Alors le choix de la langue est crucial, évidemment.
Évidemment, on diffuse en indonésien évidemment. Et aussi un indonésien qui est adapté aux jeunes puisque c'est une radio vraiment destinée aux ados. Oui, c'est crucial.
Et elle fonctionne comment, votre radio ? C'est en FM, en grandes ondes, en petites ondes ?
La radio est émise en FM, aujourd'hui évidemment par Internet. Donc on a de plus en plus d'auditeurs qui nous écoutent, pas simplement dans la province centrale de Bornéo, mais dans toute l'Indonésie. Mais principalement, oui, en FM, ce qui permet justement, encore très récemment, aller dans la plupart des villages qui n'avaient pas de réseau téléphonique ou des choses comme ça. Maintenant, ça se développe relativement vite. Mais pendant très longtemps, la radio Kalawet était pour certains le seul moyen de se divertir, en fait, je dirais. Et en plus, d'avoir un message sur l'environnement.
Ben c'est ça la magie de la radio, c'est que ça peut aller n'importe où, très très loin, et c'est pas très cher de la recevoir.
Exactement.
Alors on en profite, Chani, pour prendre de vos nouvelles. Comment ça va sur le front de la lutte contre la déforestation et la préservation de la biodiversité à Bornéo?
Ben on est en plein dedans. Il y a quand même des bonnes nouvelles avec une déforestation qui se ralentit ces dernières années. Donc ça, c'est quand même des bonnes nouvelles. Il y a plusieurs facteurs, mais la législation qui a évolué un petit peu aussi, mais aussi des années très pluvieuses, donc il n'y a pas d'incendie lié notamment à El Niño. Donc voilà, les deux, trois dernières années, là, sont plutôt... c'est une bonne tendance, je vais dire, mais les problématiques sont quand même toujours là. Si elle se ralentit, elle est toujours là, la déforestation. Donc, on a toujours des animaux qui arrivent dans nos centres. On doit toujours se battre pour geler des parcelles de forêt et en faire des réserves devenues derniers sanctuaires pour cette faune qui a fui la déforestation. Donc voilà, le combat est toujours aussi intense sur le terrain et on continue à le mener quoi qu'il arrive.
Alors, vous avez combien d'hectares aujourd'hui et quelle faune vit sur ces hectares préservés ?
On a trois réserves se résument aujourd'hui à plus de 2355 hectares protégés. À Bornéo, on a des orang-outans, on a des nasiques, des gibbons évidemment, dans une réserve qui s'appelle Doulan, qu'on essaie toujours d'agrandir en récoltant les fonds pour pouvoir acheter les terrains, puisque c'est la politique de Kalawet, et utiliser les mêmes outils que les acteurs de la déforestation, mais pour protéger, c'est-à-dire acheter aux propriétaires terriens. Et là, la bonne nouvelle, elle vient de Sumatra, avec notre réserve là-bas de 400 hectares. On a commencé il y a un petit peu moins de 10 ans à protéger les terrains là-bas. Le tigre n'était qu'une légende, de vieilles histoires parlaient du tigre dans la zone. Et depuis un an et demi, le tigre est revenu dans la forêt où Kalawet travaille, parce que justement, on a protégé les animaux depuis toutes ces années. Aujourd'hui, on peut voir en plein jour des cochons, des cerfs, et c'est devenu un vrai garde-manger. Et le plus grand prédateur de Sumatra est de retour dans la forêt, avec deux individus qu'on suit avec des caméras dans la forêt. Donc c'est une grande victoire, parce que faire revenir le plus grand prédateur de Sumatra, qui est tellement en danger, on peut être fier, et je suis fier.
Vous pouvez être fier, le tigre de Sumatra qui dort donc et vit désormais dans votre réserve. Donc ça, vous par exemple, vous en avez parlé à la radio, vous donnez des nouvelles
sûr,
de vos activités.
Bien sûr, à la radio, on parle aussi, on a des clips aussi qui informent des de l'actualité de Kalaweit. Si par exemple on a un nouveau sauvetage ou des bonnes nouvelles comme ça, évidemment qu'on le partage avec les auditeurs, parce que tout ça est extrêmement concret et c'est ce que les auditeurs aussi réclament derrière la radio, derrière ce qu'ils peuvent entendre. Ils ont besoin aussi de sentir qu'il y a des équipes, pas simplement dans les studios, mais dans la forêt, avec les animaux. Donc c'est important de les tenir informés, mais toujours avec des messages très brefs, très courts, percutants, mais très brefs. Parce qu'encore une fois, la radio est destinée à des gens qui viennent nous écouter, pas forcément parce qu'ils ont envie d'entendre un message sur l'environnement.
Et du coup, ça crée une communauté autour de votre association.
Exactement, ça crée une communauté. Moi, j'aime à dire que la radio et le fait d'avoir une petite notoriété du coup à Bornéo grâce à la radio, c'est une arme et un bouclier. C'est-à-dire que quand on nous embête, quand on a des pressions, quand on a tous ces auditeurs qui sont prêts à nous soutenir, et c'est déjà arrivé dans le passé, et c'est aussi une arme parce qu'on a un moyen de communiquer quand on veut faire avancer les choses. On va être entendu, je dirais. Qu'ils le veuillent ou pas, à un moment donné, ils vont entendre notre message.
Oui, parce que les pressions, elles viennent évidemment de ceux qui déforestent, alors qu'ils sont massivement des producteurs de palmiers à huile autour de vous, et puis aussi parfois du gouvernement. Donc finalement, à travers la radio, vous pouvez passer des messages pour essayer de contrer un peu ces pressions.
Contrer, en tout cas, oui. Voilà, essayer d'avoir une police d'assurance. Moi, je me souviens de plusieurs fois quand on a reçu des lettres d'intimidation ou de menaces. Elles ont été lues à l'antenne pour que tous les gens sachent ce qui se passe. Et rien que ça change la donne. Quand tout le monde est au courant de d'où vient la menace et tout ça, ça change la donne. Donc, c'est des situations délicates, mais encore une fois, je préfère que nos ennemis aient affaire à des milliers de personnes au courant de la situation que simplement à une personne isolée. Si j'étais tout seul, je serais beaucoup plus vulnérable et ce serait beaucoup plus facile de mettre des bâtons dans les roues. Donc la médiatisation, c'est extrêmement important ici. Et la radio, depuis maintenant quasiment deux décennies, a vraiment rempli son rôle de porte-voix et aussi de protection. Et c'est juste idéal.
Voilà, donc les inventeurs de la radio peuvent aujourd'hui être fiers, même s'ils n'avaient pas imaginé au départ que ça pourrait servir à ça. Voilà, entre autres, une application au service de l'environnement. Merci beaucoup, Chani, pour votre témoignage. On vous souhaite
Merci
bon courage. Parce qu'on sait qu'en ce moment, le combat n'est pas facile. Donc nous, on vous soutient aussi du point de vue de notre radio.
Je sais, merci beaucoup. C'est très gentil. Merci.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Grâce et pour la radio, je suis allée sur les 5 continents. J'ai parlé polygamie avec des femmes dans la région d'Agadez au Niger. J'ai échangé avec des paysans indiens et camerounais sur la difficulté de cultiver la terre. J'ai discuté du poisson qui se fait rare avec les pêcheurs sénégalais et malgaches. J'ai même nagé avec des baleines en Polynésie. Tous mes souvenirs ne tiendraient pas en une seule émission. Mais ce qui me fait vibrer quand je vous parle face à ce micro froid, c'est tous ces visages rencontrés, toutes ces vies croisées qui peut-être m'écoutent quelque part en cet instant. Et vous tous que je n'ai jamais vus, mais qui me recevez dans votre intimité, chez vous, grâce à cet outil magique qu'est la radio. Merci, merci pour votre fidélité et votre confiance. Merci de nous écrire pour partager vos réflexions et vos envies. Ça nous nourrit sur RFI. Merci à François Porcheron, fidèle maître de la réalisation de cette émission et compagnon d'aventure. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure.